La spiritualité de la vie communautaire, la non-violence, la lutte de la société civile contre l'emploi abusif des OGM ne sont pas incompatibles avec l'écriture poétique et peut-être même en sont-elles la source. C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui avec Jean-Baptiste Libouban. Bonjour Jean-Baptiste Libouban.
Bonjour Vilaine, bonjour à tout le monde.
Alors Jean-Baptiste, vous êtes membre de la communauté de l'Arche, initiateur du mouvement des faucheurs volontaires qui lutte contre la dissémination des OGM et vous publiez un recueil de poésie, Sentier d'Aurore, aux éditions L'Harmattan. Alors la poésie, c'est en vous depuis longtemps, Jean-Baptiste ?
Ben, je pense que ça l'a toujours été, parce que je peux dire que j'ai été très sensible depuis l'enfance à tous les poèmes qu'on m'a fait apprendre. Et par exemple, je me souviens presque avoir pleuré quand on m'a demandé de réciter vos certificats d'études en récitant le Dormeur du Val, qui reste pour moi quand même un très le poème de Rimbaud, ou même tous ces poèmes que j'ai appris de la littérature française, j'avoue que j'ai été émerveillé. Donc j'ai ça, mais il y a l'autre côté aussi que j'étais toujours très sensible à la nature, j'ai fait du scoutisme, mais je peux dire que la rencontre avec la nature, avec aussi la simplicité de la vie, avec le chant qu'il y avait cette joie qu'il y avait de la vie simple dans les bois, et ben voilà, je pense que c'était plus intéressant pour moi que ce que j'apprenais à l'école.
Alors en effet, dans ce recueil Sentier d'Aurore, dans lequel d'ailleurs je n'ai pas trouvé d'ordre des poèmes, y en a-t-il un que je n'aurais pas décelé ? Y a-t-il un ordre caché ? que je n'ai pas vu. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas vu d'organisation vraiment non, méthodique.
Il n'y a pas une organisation méthodique, mais du désordre jaillit la lumière, n'est-ce pas moi ? Alors, si vous regardez le premier poème...
À la gloire des enfants.
C'est à la gloire des enfants, ça commence par les enfants.
Oui.
Et le dernier poème, c'est plutôt « Si jamais les hommes, avec science et puissance, arrivaient à détruire ce monde... » Un autre monde, voilà.
Un beau poème d'apocalypse positive.
« Un souffle léger se lèverait entre ruines et décombres, comme un sourire printanier, la vie d'elle-même renaîtrait elle-même avec la lumière d'un autre monde. » Donc c'est la lumière d'Aurore. Voilà, donc... Au début, c'est l'enfance, et à la fin, on est tendu, je pourrais dire, quand même, moi je l'ai vu après, hein, c'est pas moi qui organisais le recueil, c'est mon ami Garbizou. Hein. Alors, j'étais d'accord. Hein, oui. Et donc, je me suis dit, mais c'est vrai, on part de l'enfance, on part de ce jeu des gens des enfants qui acceptent que leur château soit détruit et qui dansent, parce que finalement, l'infini désir de la vie est beaucoup plus important que le néant de notre petite histoire, même quand elle se brise. Ce qui est un peu mon cas aujourd'hui, puisque je sors du tribunal administratif qui ne m'a pas donné raison. Bon, enfin bref, voilà.
Bon, alors, donc voilà, il y a quand même, en tout cas, un début et une fin très cohérentes.
Voilà, alors entre les deux, si vous voulez, quand même, c'est quand même, pour moi, des rencontres avec... Des instants de vie, de présence, qui font que un arbre, c'est pas seulement un arbre, c'est un ami qui vous dit quelque chose, qui est présent. Un oiseau, une bergeronnette. Moi, c'est un peu mon oiseau fétiche, la bergeronnette. Si vous me dites que c'est un passereau qui, voilà, bon, je trouve que c'est banal. Mais si vous la voyez qui dresse le gars, qui galbe sa poitrine, qui court, qui fait quelques pas à toute vitesse, puis qui vous regarde. Tu me suis, tu m'as regardé. Mais tu me dis, mais c'est une vraie coquette, elle est extraordinaire. Alors, on saisit, pour moi, la poésie, c'est saisir l'intimité. C'est finalement un moment où on découvre l'intimité profonde d'un autre être. C'est sa substance. Pour moi, c'est moi-même avec elle, j'ai une rencontre profonde. C'est un insecte, un oiseau. C'est comme ça se présente. C'est comme ça, c'est un cadeau de la vie. C'est un émerveillement devant la vie, quoi.
Alors, en effet, il y a effectivement un bel hommage aux animaux. Hein. Ouais. J'ai repéré des thèmes qui sont quand même... qui parcourent votre recueil. Et en effet, j'ai repéré cet hommage aux animaux. Vous avez cité la bergeronnette, elle a une bonne place. Ah, il y a aussi le héron.
Le héron.
L'éloge de l'araignée.
Oui.
Le bal des mal-aimés.
Voilà.
Suivi du frère crapaud. Le scarabée d'or. Donc vraiment, les animaux sont... extraordinairement présent.
Oui,
avec chacun, en effet, une identité.
Avec une identité, je pense que c'est pour moi un des... Oui, la poésie, c'est révélation de l'autre dans sa substance. Et donc, c'est une autre conscience, c'est une autre vérité que la vérité raisonnable, la quête scientifique, et qui ne peut pas aborder, qui ne peut pas entrer dans là-dedans. Elle peut le décrire, mais elle ne peut pas avoir la communion avec elle. C'est qu'à un moment, là, il y a une communion, il y a une relation qui s'établit, et c'est ça qui fait, ou même si c'est un instant d'amour, ou si c'est un instant de peine, ou si c'est un éclat de rire, parce qu'il y a un ou deux éclats de rire, il y a eu quelques poèmes militants à la fin, mais on a quand même choisi de les mettre à la fin.
Il y a quand même des choix de positionnement. On va y revenir sur les poèmes militants. Je les ai repérés aussi. Alors, il y a les animaux, on l'a vu. Il y a aussi, évidemment, un hymne à la nature, quasiment, on va dire 80% du recueil. Hein,
80%.
Au rythme des saisons. Des hommages à cette beauté naturelle. Hein, c'est ce qui tient ensemble toutes ces poésies, à mon sens. Le rire du cloporte.
Ça fait partie des éclats de rire, là.
Rivage marin.
Ah oui, voilà. Alors là, bon, moi, c'est mon amour de la mer. C'est ce que je retrouve, c'est mes histoires d'enfance
de Bretagne.
De Bretagne. Côte
d'Armor.
Des Côtes d'Armor. Et puis des enfants qui jouent sur la plage. Qui m'a quand même valu un premier prix de poésie, sous l'égide de Paris 2. Et un des derniers poèmes, c'est au contraire mon troisième prix de poésie que j'avais eu l'année dernière, pour toujours la même ville, sur le poème « Efface », que je dois au préfet qui m'avait joué un mauvais tour, qui m'avait manipulé, et j'étais tellement furieux que je n'ai pas écrit un article de journal, j'ai rien dit, je lui ai fait une lettre personnelle, et quand je marchais dans la neige un mois après... J'ai été libéré, c'est écrit, j'ai écrit efface les mots, efface leurs tresses et leur musique, efface le poème, qu'il ne reste rien que le silence dans l'immensité blanche. Donc il n'y a pas de titre pour ce poème, mais c'était là, voilà. Laissons partir tout ce qui nous a offensés, tout ce qui est, et restons, même le poème à un moment, il faut accepter que tout s'en aille pour être seulement présent, je dirais en paix, en profondeur avec soi-même. Ça peut être aussi ça l'introduction de la poésie. Mais Lanza, lui, va plus loin que ça. Parce que je pense que la poésie, c'est de la chair. C'est de la chair, c'est ma vraie chair à moi.
Ce serait quoi ? La poésie, c'est de la chair,
c'est-à-dire ? Pour moi, c'est ma chair, ma vraie chair à moi, c'est ma substance profonde, quelque part, qui se révèle. C'est grâce à la bergeronnette ou à l'arbre qui me parle que moi, je me révèle aussi. Elle me révèle aussi à moi-même. Mais Lanza en dit plus que ça, lui. Lanza dit, c'est déjà mon corps de ressuscité qui arrive avant l'heure. Je ne dirais jamais ça, je n'oserais pas le dire ça. mais mon corps de résurrection, qui surgit avant l'heure.
Et pour lui, la poésie, c'est ça. Pour Lanza del Vasto, c'est ça.
Je pense que c'est ça. Mais il a fait un recueil extraordinaire. Et si je suis là, c'est aussi à cause de son écriture.
Si vous êtes là, c'est-à-dire ici à FM Plus,
oui, ou...
en train de parler de vos recueils de poésie.
Voilà, je pense que c'est grâce à une petite phrase qui a changé ma vie alors que j'étais en mathématiques élémentaires et que je faisais des arts martiaux et je cherchais à comprendre ce qu'il y avait derrière. Et j'étais à Paris, en région parisienne, donc ma bibliothèque c'était le bazar d'Hôtel de Ville où j'avais des lectures effectivement sur les spiritualités orientales, et il y avait sur les arts martiaux, mais j'ai vu qu'il y avait spiritualité orientale. Et dans un livre d'arts martiaux, sur les arts martiaux, il y avait cette petite phrase, « Vagabond, connais la dignité de l'acte vertical qui est le propre de l'homme. Même les oiseaux sont couchés dans leur vol ou assis sur leurs pattes. » Ah, je me suis dit, moi j'en avais marre de toutes ces philosophies qu'il fallait faire le singe savant. Ah, je dis, ben voilà.
Juste être toi, quoi.
Voilà, être moi, simplement. Ouais, ouais. Donc j'ai dit ça à un ami le soir qui m'aidait dans les problèmes qu'on avait avec la famille. Je lui ai dit, cette phrase-là tout de suite, je lui ai dit, tu connais ? Il me dit non. Je lui ai dit, c'est de Lanza del Vasto ? Elle me dit, oui, je connais, il a fait une communauté. Et paf, c'est comme ça que je suis tombé dans la soupe après. Et c'est comme ça que je suis là avec vous.
Bon.
C'est les rencontres inattendues.
Oui.
C'est pour ça que mon premier livre s'appelait Vagabondage d'un faucheur volontaire. C'était aussi en référence à cette petite phrase.
À Lanza del Vasto, oui, c'est voilà. Vrai. D'ailleurs, maintenant que tu le dis, maintenant que vous le dites, je me souviens.
Oh, je peux me tutoyer, c'est plus simple.
Alors voilà, donc la nature. Et puis, dans cette nature aussi, il y a les haïkus que vous utilisez à merveille, qui sont vraiment adaptés, on le sait, aux saisons, à la temporalité, à l'instant.
Voilà.
Et là, peut-être, tiens, on pourrait peut-être. en lire un ou deux. Par exemple, celui-ci est très beau, page 61. Encore une histoire d'oiseau.
C'est pas l'histoire de la grive, non? Ah ben voilà. C'est pas de la grive, je veux dire.
Le jet.
Ah, le jet.
Le jet.
Ça, c'est un très beau poème.
Voilà. Je te laisse le lire, alors c'est le tien.
Tu peux le lire.
Bon. Automne bleuté de ciel et doré de feuillage, qu'un cri de jet déchire de part en part. Voilà. Paf.
Paf. Hein.
Ouais. C'est ça, le mouvement dans un instant d'immobilité.
Ah ouais.
Ça, c'est la... Tu as mis longtemps à écrire ce taïku.
Alors, ça, c'est quand ça sort comme ça, ça sort tchac.
Instantané. Sans reprise.
Sans reprise. Mais il y en a d'autres, c'est plusieurs mois. Tu sais, on dit 10% ou 20% d'inspiration, 80% de transpiration. Et moi, je suis reconnaissant. J'ai quatre poétesses que je dis au début, là, que j'appelle mes poétesses, qui m'ont aidé, qui ont été mes sages-femmes, je peux dire, pour accoucher de mon écriture, quelque part. Parce qu'elles m'ont appris à supprimer tout ce qui était inutile, à remettre de l'ordre. Tu vois, j'aurais jamais eu ces prix de poésie sans elles. Quelque part, c'est pas mon ouvrage seulement, c'est aussi leur ouvrage, quelque part. C'est
ça. À vraiment laminer l'écriture, garder
ce qu'il faut.
Que ce qu'il faut.
Que ce qu'il fait, que ça va être... comme cas, un cri, comme tu dis, voilà, ça va être un cri de jet là, qui va sortir. Ça, c'est vrai. Mais après, il y en a qui viennent tout seuls et que je ne bouge pas. La femme que je rencontre dans le métro parisien, qui jouait du pipeau, qui a 80 ans.
La joueuse de pipeau, oui.
La joueuse de pipeau, je ne l'ai pratiquement pas retouchée. Ça a été comme ça, d'un seul coup.
Oui. Alors, la joueuse de pipeau, moi, je l'ai mise dans la catégorie... dans la catégorie rencontre,
oui.
Parce que rencontre personnelle,
oui.
Humaine, je crois que j'en ai mis deux dans cette catégorie. Il y a celle de la joueuse
peut-être
de pipeau.
Peut-être le vagabond des brumes, peut-être.
L'agression.
Alors, l'agression, c'est une blague. Hein,
c'est une blague. C'est une blague, l'agression.
C'est un rire.
On s'y attend pas. La chute est surprenante. L'agression de cet homme, qu'il transforme en maladie, pour ne pas dire qu'il avait agressé. Et alors, je les ai mis ensemble, ces deux poèmes, La joueuse de pipeau et L'agression, parce que ce sont deux poèmes qui se déroulent dans la ville. Ce sont deux poèmes urbains. Et ils sont rares, les poèmes urbains, dans ce recueil. Pour moi, ce sont les deux seuls. Et dans ces deux poèmes urbains, il y a une rencontre d'une femme, et de cette d'une femme aussi, l'agressive, l'agresseuse, ou l'agresseur est une femme. Mais ce n'est pas un poème urbain.
Mais ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu lui donnes un sens que moi, je n'ai pas donné. Parce que moi, c'est vrai, l'histoire de la grippe, c'est ça qui m'est arrivé.
Oui, je crois.
Mais bon, c'est vrai que pour moi, par exemple, souvent les oiseaux, je les vois comme des femmes. Je reconnais. Ça se voit. Pour la bergeronnette, peut-être pas pour la griffe, pas pour le jet, mais par exemple pour la griffe du jardin du Luxembourg.
Oui.
C'est comme si ça avait été une femme je le décris comme si c'était une femme qui essaye de me parler, qui tourne autour de moi.
Ils sont personnifiés.
Ils sont personnifiés,
tout à fait. Alors, une autre catégorie aussi que j'ai pu... mais là aussi, comme on dit dans le Nouveau Testament, un apax. Alors, moi, je me suis dit, il y a une poésie que j'ai trouvée qu'il faut lire en ayant en sous-texte les évangiles.
Ah oui.
Qui est bien sûr « Ne me dites pas de mal ».
Ah oui.
Voilà, c'est le seul texte, mais est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y en a d'autres, indirectement, c'est « Je suis... Le vin, du vin, je suis... »
Alors, je me suis posé la question. Non, ça faisait clairement allusion à la scène.
Pour moi, oui. Seul chacun l'entendra comme il veut. C'est un peu comme... Je pense que la poésie, comme tous les arts, ont un côté universel qui ne nécessite pas l'adhésion à une religion, à une philosophie. Chacun l'entend et va... Une musique, un tableau, chacun va ressentir ce qui lui est propre.
Ce qui lui est propre. Mais n'empêche que l'auteur, parfois écrit en ayant quand même ce que j'ai appelé ce sous-texte, ce background, comme on dirait, cette culture-là.
Ouais.
Et c'est intéressant d'avoir ces clés.
Mais par exemple, il y en a une, par exemple. Je reprends le premier. Voilà, c'est sûr que là, l'histoire ne me dites pas de mal, ça c'est clair.
C'est la femme adultère.
Ça c'est la femme adultère, et puis après c'est la loi aussi, etc. Mais d'une façon générale. Mais par exemple, si tu prends le premier poème, à la gloire des enfants. C'est les enfants qui font des châteaux, puis qui font aussi des trous dans le sable pour y verser la mer. Or, ça, c'est, toi, il y a à la fois une référence à mon enfance, à mes enfants au bord de la mer, à tous les enfants que j'ai vu jouer, qui rient quand même la mer leur défait leur château et tout ça, et qui sont au-dessus de ça, mais il y a autre chose, c'est que cet enfant qui passe avec un seau, qui prend un seau dans la mer, qui le verse dans le trou, comme pour y verser la mer, c'est une référence à saint Augustin, pour les catholiques.
Oh ben, les protestants aussi, quand même. Saint-Augustin, c'est quelque chose.
J'en sais rien, ça dépend. Je ne sais pas. Ça vient d'un protestant à l'autre. Moi, j'ai plein d'amis protestants. Alors, moi, c'est bien. Mais, parce que Saint-Augustin, c'est celui qui a fait le dogme de la Trinité. Qui l'a mis en forme, entendez. On va dire qu'il a mis en forme le dogme de la Trinité.
Il n'y a pas que des protestants anti-trinitaires.
Enfin, il y a des protestants pas trinitaires, justement. C'est pour
il n'y a pas que des protestants anti-trinitaires.
Voilà. Alors, figure-toi que dans ces. Dans ses histoires, il raconte qu'un jour, il se promenait au bord de la mer, parce qu'il était là-bas à Hippone, en Algérie, c'est un Algérien. Hein. Autant de célébrer les Algériens, c'est l'occasion.
Exactement. Autrement, on oublie ça.
Alors, il se promenait au bord de la mer, puis il voit un enfant qui prenait de l'eau dans la mer et qui le versait dans le trou. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon enfant ? Mais j'essaye de vider la mer. Et il lui dit, mais tu n'y arriveras jamais. Et l'enfant le regarde et lui dit, c'est comme toi pour la Trinité, pour comprendre la Trinité. Et chut, ça s'efface, c'était comme ça, chut, une sorte de révélation, une sorte d'image, de vision.
Ouais.
Toi. Et moi, là, ça, je l'ai mis là-dedans, mais ça ne se voit pas. Toi.
C'est plus complexe à voir, à vrai dire.
Mais ça, c'est juste pour nos amis protestants qui nous écoutent. Voilà que je leur confie ce secret.
Absolument. Jean-Baptiste Libouban, je vous propose une pause musicale dans les Faucheurs de Vagabonds Solitaires. Vous dites qu'il faut des pauses musicales dans la vie quotidienne, dans la journée. Et je vous propose les cloches de la cathédrale d'Albi.
Oh, quelle belle chose.
FM Plus 91 FM à Montpellier, avec les cloches de la cathédrale d'Albi, nous avons fait une pause parce que nous sommes avec Jean-Baptiste Libouban qui produit ces derniers mois, ces dernières semaines, un livre qui vient de sortir, Sentier d'Aurore. Alors on est en train de le parcourir ensemble, hein, de voir un peu quels sont les thèmes qui traversent ce recueil. On en a déjà décelé quelques-uns, entre la nature qui est vraiment présente, les oiseaux, et aussi les références qu'on peut déceler ici ou là. Alors, il y a aussi quand même une partie de ces poèmes qui sont des engagements politiques. Alors, on a dit tout à l'heure que vous les aviez mis plutôt vers la fin. D'abord, on peut se demander pourquoi vers la fin, finalement. Parce qu'ils sont tout aussi poétiques que les autres textes, qui sont des hymnes à la nature. Ou... Mais voilà, ils ont quand même une force poétique forte.
Ben c'est... Oui, je pense que c'est... je voulais d'abord passer par la célébration de la vie. Parce que c'est vrai que pour moi, la poésie, ça a été aussi le contrepoids de l'action. C'est le lieu du ressourcement où ma vie... Voilà, jaillissait alors que j'étais affronté soit aux violences des gens qui étaient opposés, qui étaient pour les OGM ou des forces de l'ordre, qui étaient, etc., ou des tribunaux, ou, les agressions, je dirais quand même des magistrats, des fois sont pas si faciles que ça et déstabilisantes. Donc je voulais commencer plutôt par là, plutôt commencer par dire oui à la vie, et puis après on verra quoi.
Voilà. Alors ces poèmes, je les ai trouvés bon, très beau, bien sûr. Et puis aussi plus narratif. Au fond, par exemple, voilà, deux touffes blanches. Oui. Ça raconte véritablement une scène.
Oui.
Et donc, ils ont cette qualité-là. C'est qu'ils sont, ils racontent des histoires.
Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Les deux touffes blanches, c'est une histoire. Le poème pour Rémi Fraisse aussi, qui est... pour la mort de Rémi Fraisse, qui est resté sur sa tombe toute une année, et que les parents ont relu le jour de l'anniversaire de sa mort. C'est une célébration de la vie à travers quand même un moment douloureux.
Un tragique, quoi.
Tragique, quoi. Donc, il y a une célébration un peu des faucheurs, bien sûr, je ne pourrais quand même pas éviter ça.
Et avec des à la gloire des faucheurs.
Il y a quand même aussi les histoires d'une perquisition d'une femme de l'Arche, justement, qu'on était accusée d'être une association de malfaiteurs, donc ils avaient perquisitionné dans son logement. Ils sont arrivés de jour, de nuit, ils viennent, les amis. Voilà, j'ai raconté ça sous forme aussi.
Celui-ci, c'est la...
C'est, ils viennent... ils viennent sans prévenir les visiteurs de les amis, et c'est un plaisir de les recevoir. Ils viennent sans... Ils viennent, il y a ceux qui viennent après, puis qui viennent la nuit, mais qui vous dérobent. Et puis après, il y a ceux qui viennent au petit matin.
C'est ça.
Et puis qui viennent avec des tenues bleues, mais qui s'intéressent à tout, qui sont très curieux, qui aiment beaucoup tout ce que vous écrivez, tout ce que vous disiez. Tout les intéresse. Et puis là, bon, ben, on comprend que... voilà, que c'est les forces de l'ordre qui sont venues faire une inspection,
sûr, ouais.
Sans les citer, sans leur mettre un caractère négatif, sans vouloir dire que ce sont des hommes pires que les autres. Non, ils font leur boulot, puis voilà.
Ouais, c'est ça. Alors, on les identifie, oui, les hommes en bleu.
Les hommes en bleu.
Ils reviennent d'une façon...
Ben, ils viennent une fois ou deux, comme c'est...
une fois ou deux, voilà.
Ouais. Ben, quand même, on a de bonnes relations ensemble, hein, je peux vous assurer. Hein. Très bonne relation avec les gendarmes d'une façon générale. Mais comme m'a dit un gendarme une fois, vous savez, il y a des cons même chez les gendarmes. Bon, moi, j'aurais pas osé le dire, mais puisque c'était lui qui le disait, c'est... voilà, il y en a partout, dans tous les lieux. Alors, donc,
le costume...
Mais ne confondons pas le képi avec l'homme. Il y a une conscience derrière. Beaucoup, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de conscience. Là, j'ai plein de petites histoires. Hein. Mm-hmm. Quand vous vous retrouvez après un grand procès avec votre avocat qui s'appelle François Roux, qui était de Montpellier, qui est au tribunal pénal de l'AE maintenant, et qu'on va dire, on va prendre une bière maintenant, et au fond du bistrot, il y a le procureur qui parle avec la partie adverse, et oui, je leur demande, on peut s'asseoir à côté de vous, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Et je dis à l'avocat de la partie adverse, mais monsieur, vous avez fait une plaidoirie redoutable pour nous, vous avez été extraordinaire, pour nous c'est extrêmement dangereux ce que vous avez dit. Et l'homme qui vous regarde en souriant, il dit, mais j'aurais pu faire 10 fois plus. Et oui, et j'ai vu comme ça, et ce procureur qui après reconnaissait qu'il avait lui-même lutté contre un agrandissement d'un aéroport à Bordeaux. Donc, voilà, ou un avocat de la partie adverse très très brillant qui lui dit, après que j'ai eu parlé, et qui vient me voir après un autre moment, il dit, vous savez, je ne porterai jamais rien, je ferai jamais rien de mal contre vous, soyez assurés de ça. Mmh. Ah, alors, j'ai vu comme ça des juges, des procureurs, des avocats, des gendarmes extraordinaires, des histoires de gendarmes extraordinaires, des lieux de colonels de gendarmerie qui avec qui on pouvait avoir un contact humain, quoi, voilà. Qui n'était pas l'homme à la casquette qui donne un ordre et qui vous dit, voilà, dégagez, voilà. Et qui n'était pas arrogant.
C'est ça.
C'est ce que j'ai vu encore là au tribunal aujourd'hui. Ils n'étaient pas arrogants. Et vous êtes trompé dans le lieu, mais c'était très bien dit, c'était très, très humain.
Alors, il y a une poésie où j'ai entendu un grand cri de colère et un grand désespoir.
Ah.
C'est Brume d'Armor.
Ah, Brume d'Armor. Brume d'Armor, c'est vrai que
vous
c'est...
Vous êtes d'accord avec ma vision des choses ou bien...
Je dirais que c'est la marque d'une inquiétude.
D'une inquiétude.
C'est peut-être pas une colère, mais c'est la marque de l'inquiétude qu'on est en train de tout détruire. Que demain, alors qu'il y aurait tellement, il y a des voiles qui passent au large. Ça. Bon, ces voiles qui passent au large, d'ailleurs, c'est une référence poétique aussi à. Je ne vais pas retrouver son nom maintenant, mais ça me reviendra. Mais c'était pour décrire des femmes qui disaient ça. C'est comme une des vagues qui passent au large, comme une grande voile qui passe au large. C'était très joli. Donc c'est la seule chose que j'ai gardée de ces poésies. Je vais voler ça. Alors oui, c'est vrai que Brume d'Armor, c'est on voit que là, il y a un risque de destruction de la planète. C'est vrai que ça m'habite. Ça m'habite un peu, je le vois. Il n'y a pas que les questions climatiques, il y a les questions de... il y a la bombe, c'est sûr, il y a les entreprises qui sont... Aucun chef d'État n'est actuellement capable de résoudre un problème qu'on a actuellement. On pourrait mettre n'importe quel à la tête de l'État français, enfin mettons du gouvernement français, il est coincé par les milliers de dettes qu'on a, et la seule façon c'est de promouvoir des industries, une agriculture forte pour aller détruire d'autres économies à côté. C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur.
Ouais, ouais.
Alors, là-dessus, ça c'est une vision, je dirais, effectivement peut-être pessimiste. C'est mon côté pessimiste. C'est mon côté pessimiste que je regrette de ne pas avoir fait. Déjà la dernière poésie là, que j'ai lue au début, « Si jamais les hommes ». Au début, je ne l'avais pas écrit comme ça. Et c'est mes poétesses qui m'ont dit « Mais t'es trop dur, là, que j'ai jamais marqué. » Un jour, les hommes, à part puissance, ils m'ont dit « Mais non, fais quelque chose de plus tendre, parce que ça nous décourage, ça nous désespoire. » Alors j'ai rajouté un « si », quoi. Et c'est comme ça que c'est bon. Mais j'ai plus que ça. Je pense qu'il y a un monde qui meurt, mais il y a un monde qui naît. Et j'ai pas fait de poème là-dessus. Je l'ai fait dans le vagabondage, ça, je l'ai dit. Je pense que là, mais la poésie, c'est ça, c'est ce côté féminin et sensible, je dirais féminin, qui appartient pas qu'aux femmes, qui fait qu'il y a une autre connaissance qui est en train de naître actuellement, qu'on voit dans l'éducation, qu'on voit dans la médecine, qu'on voit dans la pédagogie. Et puis, il y a tous ces gens qui travaillent pour faire des sociétés solidaires, pour lutter contre les injustices, contre ce qui est inacceptable au niveau du climat, du glyphosate, de tout ce qu'on veut, tout ce qu'ils nous racontent, les bobards qui servent à enrober la sauce actuellement pour que ça passe, et puis qui nous empoisonnent. Et y a tout cela qui luttent, qui sont solidaires, qui font une agriculture biologique, qui croient à la musique, au théâtre, qui chantent malgré tout la vie. Et puis tous ceux qui travaillent sur eux-mêmes en disant si on ne travaille pas sur soi-même, de toute façon demain, ça ne marchera pas plus qu'aujourd'hui.
Donc il y a du changement possible.
Pour moi, il y a du changement. Et ça, pour moi, si je le transformais en théologie, je dirais ça, c'est déjà le nouvel homme qui arrive.
Bon, on va s'arrêter là, Jean-Baptiste Libouban.
Qui ne nous appartient pas, qui nous dépasse tous et qui travaille en nous sans que nous en ayons conscience.
Merci encore pour ces Sentiers d'Aurore qui viennent d'être publiés aux éditions L'Harmattan. Merci Jean-Baptiste Libouban et puis à bientôt.
Merci à vous tous. Voilà, au plaisir.
Au revoir.